Oh, quel miracle Dieu a accompli en moi depuis que Jésus habite dans mon cœur. Répondu aux soins, aux souhaits, aux désirs, dans sa volonté. Et la nuit est passée depuis que Jésus habite dans mon cœur. Depuis que Jésus habite dans mon cœur. Depuis que Jésus habite dans mon cœur. J'ai la paix et la joie. Oh, quel salut aujourd'hui, depuis que Jésus habite dans mon cœur. Sur le rocher des âges, du salut, mon âme se repose depuis que Jésus habite dans mon cœur. Toutes les fautes sont couvertes par le Saint-Saint depuis que Jésus habite dans mon cœur. Depuis que Jésus habite dans mon cœur. J'ai la paix et la joie. Oh, quel bonheur aujourd'hui depuis que Jésus habite dans mon cœur. Après les jours de son retour, joyeux je regarde depuis que Jésus habite dans mon cœur. Je suis un étranger ici sur terre. Ma demeure est dans les cieux depuis que Jésus habite dans mon cœur. Depuis que Jésus habite dans mon cœur. Depuis que Jésus habite dans mon cœur. J'ai la paix et la joie. Oh, quel bonheur aujourd'hui depuis que Jésus habite dans mon cœur. Même l'obscurité, même les ombres de la mort ne m'effraient pas depuis que Jésus habite dans mon cœur. Oh, Jérusalem, de l'autre côté, comme ta lumière resplendit déjà depuis que Jésus habite dans mon cœur. Depuis que Jésus habite dans mon cœur. J'ai la paix et la joie. Oh, quel bonheur aujourd'hui, depuis que Jésus habite dans mon cœur. Oh, vous, combattants, la couronne céleste vous attend, depuis que Jésus habite dans mon cœur. Après le voyage de pèlerin, la rémunération éternelle de l'autre côté sera reçue depuis que Jésus habite dans mon cœur. Depuis que Jésus habite dans mon cœur. Depuis que Jésus habite dans mon cœur. J'ai la joie et la paix. Oh, quel bonheur aujourd'hui, depuis que Jésus habite dans mon cœur.
Merci.
Je pensais ainsi alors que nous chantions ce cantique. Est-ce que cela est comme ça vrai avec chacun de nous, comme cela était avec celui qui a fait ce cantique? Il pouvait dire, « Oh, quelle merveille Dieu a accomplie en moi !» Mais cela ne nous servira à rien si nous savions seulement que ce miracle s'est accompli en lui. La question est à poser, est-ce que cela s'est accompli en nous? Est-ce que vraiment, alors que le Seigneur vint dans notre cœur, est-ce que la paix et la joie est présente depuis ce jour? Il faut que chacun puisse répondre à cette question. Mais ne vous trompez pas vous-même. Si cela n'est pas ainsi, alors soyez sincères et dites ce n'est pas encore ainsi. Mais il faut que cela devienne ainsi. Si le Seigneur entre en possession de notre cœur, alors tout est transformé. Il a dit lui-même, si ce n'est que quelqu'un naisse de nouveau, sinon il ne peut pas hériter du royaume de Dieu. C'est ainsi que nous voyons que vraiment, c'est par l'Esprit de Dieu que celui qui a fait ce cantique exprime la grâce et il a pu exprimer ces choses et nous nous examinons nous-mêmes. Je dois dire, j'ai parfois des manquements, soyons sincères. Est-ce que parfois tu n'as pas des manquements aussi? Mais il veut nous aider. Il a promis son secours et nous sommes heureux et reconnaissants pour cela. Avant la prière encore, une parole courte que l'homme de Dieu a exprimée aux Hébreux. Et il a écrit ici dans le chapitre 11, tout de suite au premier verset. Mais la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux chapitre 1, verset 1. Chapitre 11, verset 1. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Et ensuite, il continue et dit, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste. Dieu approuvant ses offrandes, et par elle qu'il parle encore quoi que mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort. Et il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Et maintenant, suit le verset très important. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Oui, c'est merveilleux quand nous avons de telles promesses. C'est par la foi que Noé, verset 7, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par une telle foi qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Mes frères et sœurs, nous pourrions continuer à lire, vous pouvez le faire. Tout ce qui s'est passé par la foi en ceux qui vraiment croyaient. Et que Dieu puisse nous accorder sa grâce, que nous puissions encore aujourd'hui, ce soir, vraiment croire ce que le Seigneur a à nous dire. Je voudrais dire, nous ne devrions pas seulement l'écouter, mais aussi le croire. Que le Seigneur nous bénisse. Nous voulons nous lever pour la prière. Père céleste, nous te remercions encore une fois, et cela ne devrait pas être la dernière fois, mais nous te croyons de tout notre cœur, parce que tant qu'il y a le souffle de vie en nous, nous voulons croire ta parole et te faire confiance, Seigneur, car tu es le véritable Dieu et la vie éternelle. Nous savons, Seigneur, qu'aujourd'hui encore tu es le même et que par ta parole créatrice, tout a été appelé à l'existence. Ce qui est visible et ce qui est invisible, tu nous as aussi élus. Tu nous as aimés en nous appelant à sortir, cela avant même la fondation du monde. Nous te remercions de tout notre cœur pour ta grâce et pour ton amour que tu as pour nous, Seigneur. Pas que tu as eu seulement, mais que tu as encore aujourd'hui pour nous. Loué et exalté sois-tu. Adoration te soit apportée et honneur. Viens, rencontre-nous. Viens parmi nous. Sens-toi bien parmi nous. Nous le croyons, tu n'es pas loin. Tu es présent. Que l'adoration soit apportée à ton merveilleux et glorieux nom. Alléluia. Gloire à toi, l'agneau. Gloire à toi, l'agneau. Alléluia. Tu es digne. Tu es digne. Nous voulons ensemble chanter ce chœur. Amen. Nous nous asseyons. Nous demandons à Frère Franck. Loué et remercié soit le Seigneur, notre Dieu. Nous avons de tout notre cœur chanté et aussi tout de suite pensé comme c'était avec Enoch. Il est écrit qu'il fut enlevé et ne fut plus trouvé sur terre, et nous aussi nous serons enlevés et nous ne serons plus trouvés sur terre. Deux seront sur un lit, l'un sera pris, l'autre restera. Chaque parole, chaque pensée qui est contenue dans les Saintes Écritures est précieuse. On peut s'approfondir dans ces choses. Quand je pense à ce que qu'on vient de fêter le combien 177e anniversaire de Darwin qui a inventé la théorie de l'évolution. Qui est en 1993, ça a été la première querelle aux États-Unis, est-ce qu'on devrait croire cela ou pas? Mais on lit, n'est-ce pas, dans Hébreux, que c'est par la foi, c'est par la foi qu'on reconnaît que Dieu a appelé à l'existence toutes choses par sa parole créatrice. Darwin aurait dû, en fait, au moment où sa fille de 10 ans mourut du cancer, il aurait dû se repentir, entrer en lui-même et se demander « Qu'est-ce que tu as, par la mort de ma fille, voulu me dire ?» Mais c'est le contraire qui s'est passé en lui, il s'est rebellé contre Dieu. Mais nous sommes reconnaissants pour la grâce que le Seigneur nous a accordé. Et je voudrais aussi, de tout mon cœur, à tous, souhaiter la bienvenue, particulièrement tous ceux qui sont ici aujourd'hui pour la première fois. Nous avons de la visite d'Israël, une sœur que le frère Méned connaissait et maintenant habite à Düsseldorf avec son mari. Où êtes-vous? Levez-vous, s'il vous plaît. Oui, ça c'est maintenant le nouveau couple. Que Dieu vous bénisse parmi nous, très, très particulièrement. Ensuite, nous avons notre frère Prince Empel du Ghana parmi nous. Est-il quelque part ou bien alors est-ce qu'il a encore entrepris une visite? En ce moment, il n'est pas ici. Il va sûrement arriver plus tard. Nous avons de la visite de l'Amérique du Sud, du Brésil, où sont nos frères du Brésil. Levez-vous. Oui, levez-vous. Voici nos frères du Brésil, du Portugal. Que Dieu bénisse notre frère du Portugal. Que Dieu bénisse nos deux frères du Brésil. Sentez-vous bien parmi nous. Nous sommes une grande famille dans le Seigneur. Et je vois ici le frère Ellis de Edmonton, Canada, qui avec sa famille est ici. Lève-toi et où est le reste de la famille? Que Dieu bénisse notre frère particulièrement. Où est le reste de la famille? Quelque part dans la salle, la maman et les deux enfants. Fils et filles sont ici quelque part dans la réunion. Ainsi, que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse tous ceux qui sont ici aujourd'hui. Où est-ce que nous avons encore de la visite pour la première fois? Levez, s'il vous plaît, les mains. Qui est aujourd'hui pour la première fois ici? Levez-vous, s'il vous plaît, tous ceux qui sont ici aujourd'hui pour la première fois. Que Dieu bénisse, que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse, oui, que le Seigneur bénisse, qu'il bénisse partout, de loin et de près. Nous avons tout un bus de la Roumanie ici et les frères et les sœurs, nous leur souhaitons particulièrement la bienvenue. Celui qui entreprend 1700 kilomètres pour écouter la parole de Dieu, il confirme ce qui est écrit dans Amos, le chapitre 8, au verset 11, que Dieu enverra une faim pour écouter sa parole. Et ça, nous le voyons réellement accompli devant nos yeux. Et tous les frères et sœurs de la Tchèque, de la Slovaquie, de la Pologne, de l'Italie, de la Suisse, de l'Autriche, de la France, de l'Hollande, de la Belgique, de partout, il y a des frères et des sœurs ici rassemblés pour écouter la sainte et précieuse parole de Dieu et ainsi se préparer réellement pour le jour glorieux du retour de Jésus-Christ, notre Seigneur, pour expérimenter ce jour ensemble avec nous. Ensuite, nous avons des salutations de la moitié du monde, du Kenya, de l'Afrique du Sud, de toute l'Afrique, et le frère Wallström remet sa salutation, le frère Manfred du Chili remet ses salutations, oui, beaucoup de frères et de sœurs, le frère Joey de Lima, Pérou, remet sa salutation. Tous nous saluent au nom du Seigneur. Et nous avons le frère Graf aujourd'hui ici, qui avait entrepris un voyage au Chili en mars, ensemble avec sa femme, et ils ont été tous bénis d'une bénédiction demeurante au Chili. Le frère Graf, lève-toi. pour que tous puissent te voir. Ça, c'est le frère Graf de la Suisse. Et Dieu a, de manière puissante, béni notre frère et notre sœur et les a utilisés puissamment au Chili et pourrait être aussi une bénédiction pour les autres là-bas. Nous avons le frère Daniel ici de Timișoara, de la Roumanie. Lève-toi pour que tous puissent te voir. Le frère Daniel, tous nous le connaissons. Que Dieu te bénisse parmi nous. Le frère John de Bucarest nous envoie des salutations fraternelles et nous les transmettons. Ensuite, nous avons notre frère de Paris ici et le frère Didier, nos frères de Paris et notre frère Didier, tous les frères d'Orléans, les frères de Bruxelles, les frères de Lyon, les frères, oui, on peut vraiment dire de toute l'Europe, nous sommes ici rassemblés. Le frère Müller de l'Autriche, qui est-ce que j'ai oublié? Tous les frères et toutes les sœurs sont venus pour, avec nous, écouter la parole de Dieu et expérimenter la présence et particulièrement la bénédiction de Dieu. Sentez-vous bien. Nous avons ensuite une très bonne nouvelle. Nous avons, il n'y a pas longtemps, ici annoncé qu'un couple qui aujourd'hui est parmi nous, mais ne veulent pas que leur nom soit mentionné et ne veulent pas être honorés. Ils ont eu dans le cœur de rassembler en un livre nos 5 brochures et à partir de lundi, ce livre sera dans toutes les régions de langue allemande, pourra être acheté dans toutes les librairies publiques dans ces 3 pays de langue allemande. Le titre principal est « Que dit les Saintes Écritures ?» Que dit les Saintes Écritures ? Et ensuite, les enseignements fondamentaux donc de l'Église chrétienne sur la balance. Et ensuite, tous ces enseignements sont inclus. Le christianisme d'hier et aujourd'hui, Dieu et son plan avec l'humanité, c'est la 2e brochure. La 3e, le retour de Jésus-Christ. La 4e, baptême, souper et lavage des pieds. Et la 5e, il est écrit. Toutes ces 5 brochures rassemblées en un seul livre. Et je voudrais offrir ce livre à chaque famille. Pas une famille avec 6 personnes prenant 5-6 livres, mais un livre pour chaque famille. Je voudrais personnellement le donner, l'offrir. C'est pour moi une grande joie. Je suis reconnaissant de ce que des personnes sont de cette manière envoyées de Dieu, par Dieu, et de cette manière utilisées par lui, ce que nous ne pouvons pas faire, d'autres le peuvent, et c'est ainsi que Dieu les a bénis pour cela. Ici, nous avons même à la fin de ce livre encore quelques photos, et nous avons même, et je me réjouis particulièrement de cela, le livre contient Jérusalem, le livre contient Golgotha et le jardin du sépulcre, et tout Jérusalem. Et cela était dans le cœur de nos amis, de notre frère et notre sœur, particulièrement que Jérusalem, que Israël ne soit pas oublié, et particulièrement Golgotha ne soit pas oublié. Et à mon étonnement, aussi la photo de frère Branham avec la lumière surnaturelle est ici dans ce livre. Et même la photo avec le nuage est aussi dans ce livre. Et ce couple-là est assis aujourd'hui au milieu, donc parmi nous, dans cette salle, et disent, ça c'est ce que Dieu nous a mis dans le cœur, et nous l'offrons à l'Église. C'est un frère qui a une imprimerie. Oui, ça, d'abord, il faut se représenter ce que cela signifie. Que Dieu vous bénisse maintenant et dans toute éternité. J'aurais beaucoup de choses à dire, particulièrement aussi du voyage de Mars par le Pakistan. Non, huit réunions. Et là-bas, je vous dis que vraiment parfois, les choses ont lieu comme ça, que toute la ville est remplie de placards, et cela dans un pays islamique. 97% de sont musulmans, et malgré tout, une grande invitation sous un ciel ouvert, avec plus de 100 policiers, tous, les uns sont en uniforme de policiers, les autres sont en civil, et c'est cette réunion, pour que cela soit protégé, cette réunion de milliers de personnes, nous savons que c'est Dieu qui protège la réunion, mais quand il y a la police qui est présente, alors les personnes les voient, ils ne voient pas toujours Dieu, ils ne sont pas toujours conscients de sa présence, mais quand ils voient la police, alors c'est autre chose. Mais vous vous rappelez qu'il y avait eu un frère qui était ici il n'y a pas longtemps, il appartient au gouvernement au Pakistan, et il est même dans le Parlement député, et il n'y a pas longtemps, il a entendu ce que Dieu a fait dans notre génération, et il a été saisi par le message de la parole révélée. Et il n'y a pas longtemps, il était ici en un premier week-end en 2005, et il a dit, frère Franck, il faut que cela soit entendu dans notre pays. Il faut que toute la nation, tout le Pakistan soit informé. Et c'est ainsi que cela s'est passé aussi. Sous un ciel ouvert, dans un grand stade, des milliers et des milliers rassemblés pour écouter la parole du Seigneur, donc transportés par des grands haut-parleurs, et de manière que tous ceux qui ne pouvaient pas rentrer dans le stade ont pu même entendre la parole de dehors. Est-ce que cela n'est pas la grâce de Dieu? Est-ce que cela n'est pas la main du Seigneur? Nous sommes très, très reconnaissants pour tout. Et aussi, ce qui se passe à Rome, et nous n'allons pas ici pouvoir entrer dans le détail de ces choses. Vous l'avez tous appris. Celui qui, en tant que premier cardinal, a été couronné de ses 15, c'est-à-dire Levada, était le premier qui s'est mis à genoux et qui a baisé la bague du pape et qui a reçu des pourpours l'un après l'autre, des vêtements de pourpours l'un après l'autre. Et quand on lit dans Apocalypse 17 et dans Apocalypse 18, trois fois l'une après l'autre, il est parlé de la ville dans ce chapitre qui est revêtue de pourpre et d'écarlate et d'or et de perles, et etc. Et alors, on n'a même pas besoin de la chercher longtemps. On a seulement besoin de lire la Bible, particulièrement Apocalypse 17 et Apocalypse 18. Peut-être aussi, dans ce cas, regarder la télévision pour qu'on puisse voir, n'est-ce pas, la beauté de ce pourpre. Et de nouveau, repartir dans la Bible. Et ensuite, personne n'a besoin encore de demander qui ou bien alors où est-ce que cette ville se trouve et qu'est-ce que cela veut dire? Quelle en est la signification de ces versets? Non, tous le sauront. Alors, on ne veut pas retenir notre temps sur ces choses, mais nous voyons en tout ce qui se passe, comment est-ce qu'il y a aussi l'union. Mais imaginez-vous, ce qui est étrange ici, je ne voudrais en fait même pas venir à parler de ça aujourd'hui, mais même à Rome, le plus grand rabbin juif a entrepris une visite dans la mosquée islamique à Rome, et il a invité que le imam de cette mosquée-là puisse aussi aller dans la plus grande synagogue à Jérusalem pour aussi faire une visite. Et le pape a déclaré que les trois religions du monde doivent travailler ensemble pour justement contribuer à la paix du monde et l'atteindre. Ce n'est même pas la peine de faire un commentaire. Le monde, l'ordre du monde, le gouvernement du monde, la globalisation de toutes ces choses, tout est en train de s'accomplir devant nos yeux. Nous sommes seulement intéressé à ce que Dieu lui a à nous dire, à ce qu'il fait dans l'Église, à ce qu'il a promis. Et en cela, réellement, cette pensée m'est venue. Après 2000 années, cela a plu à Dieu d'utiliser, de bénir frère Branham comme les hommes de Dieu ont été bénis au commencement et l'utiliser comme les prophètes et les apôtres avaient été utilisés par Dieu pour que cette génération, cette dernière génération, et ça, c'est ce député-là, R. Scott, qui l'a dit aux États-Unis, il disait, nous sommes la première génération qui doit comprendre quelle est la dernière. La première génération qui doit comprendre que nous sommes la dernière, que nous serons la dernière. Et Dieu a réellement, à la fin du temps de la grâce, envoyé un ministère prophétique, accordé un ministère prophétique pour nous apporter en relation avec le Dieu vivant, avec son plan du salut. Et Jésus-Christ, en tant que le même, hier, aujourd'hui et éternellement, le présenter et l'expérimenter personnellement, être témoin oculaire de ce que Dieu, dans le présent, a fait, et particulièrement en relation avec le ministère de notre Seigneur, qui aussi devait être prophète. Il y en a qui, eux ici, sortent à cela. Si, quand on mentionne le fait qu'il était aussi homme et qu'on le mentionne dans la prédication, mais il devait devenir homme à cause de l'homme. Dieu ne peut pas mourir. Dieu est immortel. C'est ainsi que c'est écrit dans 1 Timothée, le chapitre 6, à partir du verset 16 et 17. Et notre Seigneur devait prendre notre place. Il devait, pour nous, à notre place, mourir. Il devait expérimenter, ressentir lui-même et prendre sur lui cet état d'être séparé de Dieu. Il devait, sur la croix à Golgotha, dire, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Dans le psaume 22, cela déjà était écrit il y a pas depuis longtemps. Mais ensuite, l'accomplissement a eu lieu à Golgotha sur la croix. Et il devait aussi être prophète. Car Moïse, ou bien alors Dieu, par Moïse, avait dit que Dieu vous suscitera de parmi vos frères un prophète comme moi. S'il vous plaît, laissons chaque verset biblique là où il est écrit et comment est-ce qu'il est écrit. Et regardons le contexte dans lequel il a été écrit et c'est là qu'il a sa place. Nous sommes simplement reconnaissants de ce que Dieu nous a accordé la grâce de respecter sa parole au-dessus de toute chose et d'avoir cette crainte, que cette crainte puisse nous être conservée à tous jusqu'à la fin. Je voudrais lire quelques versets bibliques et aujourd'hui, nous avons, n'est-ce pas, le souper du Seigneur que nous avons prévu, la Sainte Cène, donc, et je voudrais déjà ici inclure le temps de la Pâque. Nous allons, dans le temps de la Pâque, vendredi de Pâque, être à Hambourg, Dieu voulant. Le samedi de Pâque, nous serons à Berlin, et le dimanche de Pâque, nous serons à Prague, et le lundi de Pâque, nous serons dans la région de Stuttgart, dans l'Allemagne du Sud, à Böblingen, plus précisément. Et je voudrais déjà, ici, inclure ce qui s'est passé le jour de la Pâque. Et aussi, je vous demande de de me comprendre, moi particulièrement, car le 1er et le 2e avril et le 2 avril ont pour moi une signification particulière. Cela demeure ainsi, je n'en peux rien. Et nous regardons au Seigneur. Il bénira d'une manière particulière ce week-end. Il sauvera. Il accordera la certitude de la foi à ceux qui ne l'ont pas encore. La certitude du pardon, de la réconciliation avec Dieu. La certitude que Dieu en Christ vraiment nous a acceptés, nous a agréés et que nous ne sommes plus des spectateurs ou bien des gens du dehors, mais gens de la maison de Dieu, citoyens, frères et sœurs dans le Seigneur et fils et filles de Dieu. C'est simplement merveilleux de ce que chaque parole de Dieu est vraie. Acceptez, recevez ce que nous lisons. Et comme nous l'avons entendu dans la parole d'introduction, la foi doit être liée avec l'écoute de la parole de Dieu. Hébreux 4, verset 2. Quand nous écoutons la parole de Dieu, nous devons la lier à la foi, nous devons croire et nous suivons et nous demandons à Dieu qu'il puisse en nous faire à chacun individuellement ce qu'il a dit dans sa parole. Avec le psaume 98, nous voulons commencer. Le psaume 98, nous voulons commencer à partir de versets 1 et 3. Psaume 98, du verset 1 au verset 3. Psaume 98. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, car il a fait, car il a accompli des prodiges. La même parole accomplie est écrit dans Jean 19, verset 30. C'est accompli. Sur la croix à Golgotha, cela a eu lieu. C'est accompli. Sa droite et son bras saint lui sont venus en aide. Nous ne regardons, nous ne chantons pas seulement Jésus est vainqueur. Il est le vainqueur. Il a vaincu la mort et l'enfer. Et le troisième jour, il est ressuscité. Le verset 2. L'Éternel a manifesté son salut. Il a révélé sa justice aux yeux des nations. Verset 3. Il s'est souvenu de sa bonté et de sa fidélité envers la maison d'Israël. Toutes les extrémités de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Il n'y a pas en aucun autre le salut et il n'y a pas un autre nom qui aurait été donné aux hommes sous le ciel pour leur salut, dans lequel ils auraient le salut. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12. Alors que je vis la foule au Pakistan, cette parole de Matthieu, chapitre 8, Matthieu, chapitre 8, verset 11. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Est-ce que tu penses maintenant aux autres, à d'autres, ou bien alors est-ce que tu penses à toi? Est-ce que tu peux dire, bien-aimé Seigneur, j'ai la grâce de me compter à ce groupe, à ce troupeau qui un jour prendra part dans le royaume des cieux à ce grand souper ou repas. Et la chorale chante toujours, ils viennent de l'est, de l'ouest, du nord et du sud. même du fait que nous venons nous rassembler, et cela de différents peuples, pour écouter la parole. C'est une preuve que nous appartenons à l'Église épouse. Ils viennent de l'Est et de l'Ouest, ils viennent du Sud et du Nord. Ce sont des jours et des heures de préparation que Dieu nous accorde. Dans l'Épître aux Éphésiens, le chapitre 2, nous avons l'annonce merveilleuse de ce qui s'est réellement passé pour nous. Éphésiens, chapitre 2, versets 1 et 2. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'or, de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. En allemand, donc, dépendant du train de ce monde, dépendant du prince de la puissance de l'air, dépendant de l'esprit. Est-ce que tu as pu t'inclure dans le premier verset? Il m'a aussi, moi qui étais mort, dans le péché et la transgression. Dans le péché et la transgression. Accepte-le pour toi. Personnellement, tous ceux qui ont expérimenté une réelle conversion à Christ, ou alors tous ceux qui n'ont pas encore expérimenté une conversion à Christ, de se tourner à Christ, que cela soit le jour dans lequel la parole au singulier a sa valeur pour chacun. Le verset 4, mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, à cause de son grand amour, qu'est-ce qui a touché le Seigneur de gloire de devenir homme? Parce qu'il nous a aimés. Qu'est-ce qu'il a poussé, lui, à porter tant de preuves comme aucun autre homme sur cette terre? C'était l'amour pour toi, l'amour pour moi. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, seul engendré de lui, pour que tous ceux qui croient en lui ne périssent pas, mais est la vie éternelle. Vous qui étiez morts par vos offenses, verset 5, nous a rendus vivants avec Christ. Cela ne va pas maintenant s'accomplir, cela est accompli. Cela est accompli. La crucifixion, la mort, a été le règlement de compte avec toute notre passé. Et la résurrection était le nouveau commencement pour tous ceux qui sont morts avec Christ. Aussi certain qu'il est ressuscité des morts, c'est ainsi que, aux yeux de Dieu, nous sommes pour marcher en nouveauté de vie, ressuscité avec lui. À la fin du verset 5, il est dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Loué soit le Seigneur. C'est par la grâce. Le verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce, par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Ça, c'est le salut parfait, salut qui va au-delà du temps jusqu'à dans toute l'éternité, reste valable. Et ce qui est merveilleux, c'est que cela ne peut jamais être annulé et n'a pas besoin d'être repris, car les décisions de Dieu sont comme ses paroles, elles sont oui et amen. Au verset 8, il est écrit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Non, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Pas de propres œuvres, mais les œuvres de la foi que Dieu, pour nous, déjà d'avance a préparées afin que nous les pratiquions. Romains chapitre 5, je voudrais seulement lire quelques versets noyaux qui nous représentent Golgotha, qui nous présentent le grand jour de réconciliation de Dieu avec l'humanité devant les yeux. Romains chapitre 5, versets 8 et 9. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Bien-aimés frères et sœurs, alors qu'aucun de nous pouvait demander après lui, il a déjà demandé après toi et après moi. Alors qu'aucun homme ne pouvait se tourner à lui, il s'est tourné à nous. Et quand le temps fut accompli, cela a eu lieu. Le verset 9, dans Romains 5, à plus forte raison, donc ici, ce verset-là rend témoignage du sang de la réconciliation. À plus forte raison, donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Par son sang. La justification, le pardon, la grâce, le salut nous a été accordé par le sang de l'agneau, par Dieu. Et tel que nous allons encore le voir, la vie est dans le sang. Et c'est ainsi que le Seigneur a donné son sang et sa vie pour nous. Dans 1 Corinthiens, l'épître de 1 Corinthiens chapitre 15, ici nous lisons cet exposé merveilleux, 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 21 et 23. 1 Corinthiens 15, verset 21. Car puisque la mort est venu par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tout meurt en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang, Christ comme prémisse. Puis, ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite, viendra la fin. Nous sommes reconnaissants pour cette parole qui nous introduit dans tout le conseil de Dieu, mais encore plus, nous montre que nous sommes inclus dans ce plan du salut et que nous ne suivons pas un cours religieux, mais que nous sommes en relation avec Christ, en liaison avec lui, lié avec lui. Il nous a liés avec lui pour que nous, il s'est lié avec nous pour que nous puissions être liés avec lui. Il, en toutes choses, il est entré en relation avec nous. Il est devenu semblable à nous pour que nous puissions devenir semblables à lui. Tout cela a été conduit par Dieu ainsi, selon le grand plan du salut de notre Dieu. Dans 1 Timothée, le chapitre 2. 1 Timothée, chapitre 2. Ici, nous lisons 1 Timothée, chapitre 2. Ce verset, en fait, on devrait le laisser, mais il s'agit ici du péché original, de la séduction et aussi de la rédemption, donc. 1 Timothée, chapitre 2, versets 13 et 14. Car Adam a été créé le premier, Ève ensuite, formé le premier, Ève ensuite. Adam n'a pas été séduit, mais la femme séduite s'est rendue coupable de transgression. Nous ne voulons même pas ici entrer dans les détails. Nous voyons seulement Ève au commencement de la création créée. Adam était un fils de Dieu créé. Ève, une fille de Dieu créée, formée. Et nous voyons Marie. Et nous voyons le nouveau commencement que Dieu, par un engendrement de l'esprit, a fait pour ainsi à cette chair, car un commencement et une fin, accorder la naissance de Dieu par l'esprit, et cela à toute l'humanité qui deviendrait croyant, de l'humanité ceux qui deviendraient croyants. C'est-à-dire que c'est pour cette raison que Christ est le premier né entre plusieurs frères. C'était pour donner à la chair, car un commencement et une fin, la nouvelle naissance. Et vraiment, nous remercions Dieu de tout notre cœur de cette manière, il nous a introduits, il nous a donné de prendre part, il nous a inclus dans son conseil du salut pour que de cette manière, nous ayons réellement le plein salut, le pardon et la grâce et le salut. Et que nous soyons entièrement justifiés devant Dieu. Et que rien, vraiment rien reste, parce que il y a eu ce grand jour de réconciliation de Dieu avec l'humanité. Hébreux, le chapitre 2, je lis avec esprit quelques versets bibliques pour que nous ayons un fondement biblique. Réellement un fondement biblique et que nous puissions croire bibliquement. Hébreux, chapitre 2, versets 14 et 15. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par sa mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Verset 15. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Donc, nous avons ici l'évangile. Nous avons ici un message divin qui délivre, un message du salut. Ce qui est merveilleux, c'est que ce message est vrai. C'est que ce message est vrai et que Dieu personnellement était en Christ et a réconcilié le monde avec lui-même. Maintenant seulement, pour nous représenter l'alliance que Dieu a faite devant les yeux, je voudrais lire deux versets de l'Ancien Testament, de Exode, du chapitre 24, Exode, le chapitre 24. Ici, nous avons dans ces versets 7 et 8 le peuple de l'Alliance et le livre de l'Alliance, Dieu par Israël, qu'il a élu de toutes les nations, a en image voulu montrer l'histoire du salut et annoncer à l'avance. Exode chapitre 24, versets 7 et 8. Il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Ils dirent, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Moïse prit le sang et il le répandit sur le peuple en disant, voici le sang de l'Alliance que l'Éternel a faite avec vous selon toutes ses paroles. Ceci est le sang de l'Alliance. Vous pouvez le lire, Matthieu 26. Nous pouvons le lire dans Marc, l'évangile de Marc. Ceci est le sang de l'Alliance. Lévitique chapitre 17. Ici, nous avons l'explication de comment est-ce que cela est déterminé, l'expiation par le sang de la part de Dieu lui-même. Comment est-ce que cela est déterminé? Lévitique chapitre 17, versets 11 et 12. Lévitique chapitre 17, verset 11. Car la vie de la chair est dans le sang. Et je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il serve d'expiation, afin qu'il produise l'expiation pour vos âmes. En allemand, produise. Car c'est par la vie qui est contenue dans le sang que l'expiation est produite. Donc, pas par nos œuvres, nos actions, mais le sang, la vie qui est contenue dans le sang, c'est ça qui produit la justification. Ensuite, au verset 12, c'est par la vie. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, personne d'entre vous ne mangera du sang. Et l'étranger qui séjourne au milieu de vous ne mangera pas du sang. Ensuite, suit le verset 14 dans Lévitique chapitre 17. Car la vie de toute chair, c'est son sang. Ou alors, est dans son sang. Ce qui est en elle, c'est son sang qui est en elle. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez le sang d'aucune chair. Car la vie de toute chair, c'est son sang. Quiconque en mangera sera retranché. Seulement pour recevoir la vue d'ensemble. Dans Lévitique chapitre 16, tout le chapitre traite ce sujet sur le grand jour, ce grand jour dans l'histoire d'Israël, de ce grand jour de réconciliation, où le grand sacrificateur, une fois par an, entrait dans le lieu très saint, était allé dans le lieu très saint, pour apporter le sang de la réconciliation. Je lis seulement Lévitique chapitre 16, verset 17. Il n'y aura personne dans la tente d'assignation lorsqu'il entrera pour faire l'expiation dans le sanctuaire. Jusqu'à ce qu'il en sorte, il fera l'expiation pour lui et pour sa maison et pour toute l'assemblée d'Israël. Une parole merveilleuse. Nous pourrions maintenant aller au verset parallèle dans Hébreu, où notre Seigneur, en tant que grand sacrificateur, avec son propre sang, est allé dans le sanctuaire céleste pour confirmer la rédemption accomplie et devant le trône de la grâce en tant que entrée en vigueur, le présenter. Nous allons encore dans Hébreu, dans Ésaïe, pardon, dans Ésaïe 53. L'une des paroles merveilleuses en ce qui concerne la rédemption, la réconciliation et le pardon, Ésaïe 53, mais aussi en ce qui concerne donc l'une des paroles les plus merveilleuses en ce qui concerne la semence divine, la semence de Dieu. Vous savez que le mot semence est toujours descendance ou bien postérité. Vous pouvez tous vous remarquer cela. 213 fois dans la Bible, le mot semence en relation avec postérité est écrit. Dans l'humanité, il y avait la semence d'Abraham, la postérité d'Abraham, la descendance. La semence de David était la descendance de David, la postérité de David. 213 fois, la parole de Dieu, dans les différents contextes, parle de la semence de Dieu, de Christ, de l'Église, de la semence, et de sa semence. Et ici, dans Ésaïe 53, nous lisons, à partir du verset 10, « Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, en allemand, de le frapper de maladie, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. » Il verra une postérité et prolongera ses jours. Il verra une semence et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Et ensuite, Gethsémané nous est représenté devant les yeux. Nous avons ici, à partir du verset 11 dans Ésaïe 53, à cause du travail de son âme, il verra du fruit et en sera rassasié. Par sa connaissance, ça c'est en allemand, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Toi et moi aussi, nous appartenons à ces beaucoup-là, à qui il a fait l'expiation et accordé la justification en se chargeant de leurs iniquités. En se chargeant de leurs iniquités. L'a-t-il fait? Voici, ça, c'est l'agneau de Dieu qui enlève, ôte le péché du monde et porte le péché du monde. Verset 12, Ésaïe 53. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. C'est pourquoi. Justement, parce qu'il a donné sa vie en sacrifice. Ici, il est dit, c'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes. Alors qu'il portait les péchés de beaucoup d'hommes. Et qu'il a intercédé pour les coupables. Bien-aimés frères et sœurs, mettons-nous dans ce texte. C'est pour toi et c'est pour moi qu'il a prié. C'est pour toi et pour moi qu'il a travaillé à Gethsémané, le travail de son âme, qu'il est tombé sur sa face, et que c'est pour toi et pour moi qu'il a dû entreprendre ce chemin jusqu'à Golgotha. Il a accompli la réconciliation et le pardon. Il a accompli et il nous l'a accordé, il nous l'a donné. Aujourd'hui, que cela puisse entrer profondément en nous. Que cela puisse devenir notre expérience du salut personnel. Du salut, notre expérience personnelle du salut. Que vraiment aujourd'hui, en cet endroit, nous puissions expérimenter ce grand salut accompli de notre Dieu. L'expiation, le salut et la réconciliation, le pardon. Si nous puissions recevoir ces choses de cette manière en nous, comme la Bible témoigne, et que nous faisons seulement encore qu'une seule chose, c'est de remercier le Seigneur et d'apporter l'honneur à son nom. Parce que dans ce plan du salut, nous avons été inclus. Dieu était en Christ. Nous sommes réconciliés avec Dieu. Nous sommes passés de la mort à la vie. Sa victoire est ma victoire. Maintenant, en regard au souper du Seigneur, vous savez, au-dessus de tout ce que la Bible enseigne, il a toujours été disputé, toujours des disputes. Des disputes sur la divinité, des disputes sur le baptême, toujours seulement des disputes. Des disputes sur la justification. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi est-ce qu'ils disputent? Et comme souvent nous avons déjà eu à le dire, là où il y a la révélation, on ne dispute plus, on ne se dispute plus. Et là où on se dispute, c'est parce qu'il n'y a pas de révélation. Lisons dans l'évangile de Jean, trois versets particuliers, de l'évangile de Jean, le chapitre 6, en regard au souper du Seigneur que nous allons fêter. Nous avons dans l'Ancien Testament entendu, n'est-ce pas, celui qui mange du sang sera retranché du peuple, car le sang avait été donné pour produire l'expiation pour le pardon des péchés, et la vie du corps est dans le sang. C'est peut-être donc que personne n'avait le droit de manger de sang. Et même, nous avons dans les Actes des Apôtres, le chapitre 15, et aussi dans le chapitre 21, où les apôtres ont décidé, sous la conduite du Saint-Esprit, que de manger le sang, cela n'est pas permis. Personne n'avait le droit de manger du sang. Maintenant, écoutez, c'est la vie qui est dans le sang que les péchés étaient effacés, expiés. Lisons dans Jean 6, ici, au verset 46. Jean 6, verset 46. En fait, tout le chapitre 6, du verset 47 jusqu'au verset 59, ça parle de ça. Mais commençons ici, dans Jean 6, au verset 47. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Il en mange et ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Ici, nous avons pain et chair déjà ensemble. Mentionnez pain et chair, ma chair, pour la vie du monde, pour la vie du monde, de l'humanité. Là-dessus, les Juifs, le verset 52, discutaient entre eux, c'est ainsi qu'il s'est écrit au verset 52, disant, à partir du verset 53 donc, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Pensez aux Écritures de l'Ancien Testament. La vie est dans le sang et personne n'a le droit de manger le sang. Et maintenant, dans le Nouveau Testament, si nous ne prenons pas ce sang-là pour nous, la vie-là qui est dans le sang-là ne peut pas venir à nous. Il faut accepter l'œuvre accomplie par le sang pour que la vie qui est en lui soit en nous et vienne en nous. Écoutez bien, d'abord croire ce qui a été accompli par le sang. Je lis à partir du verset 53. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang à la vie éternelle. Alléluia. Gloire à Dieu. Il a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Continuons à lire. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père. Et que je porte la vie en moi par le Père. Ainsi, celui qui me mange vivra par moi, aura la vie en lui, portera la vie en lui à cause de moi, par moi. Oui. Quelle parole merveilleuse. À quel verset pensez-vous maintenant? 1 Corinthiens 2, verset 14. L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Les choses de l'esprit, les choses qui sont contenues, qui sont dites dans la parole, doivent être comprises spirituellement, doivent être reçues par l'esprit révélé. La personne a besoin de venir et le jour du souper transformer donc transformer du pain ou bien du vin en sang. Non, non, non. La transformation doit avoir lieu à cause de la vie qui était dans le sang et qui est revenue en toi. C'est cette vie-là qui vient te transformer. Sa vie doit être manifestée en nous par sa grâce. Parce que nous avons accepté l'œuvre accomplie par le sang. À partir du verset 57 et 58, je lis encore. Comme le Père qui est, qui porte la vie en lui m'a envoyé et que je porte la vie en moi à cause du Père. Ainsi, celui qui me mange portera la vie, aura la vie, vivra par moi, à cause de moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. C'est ainsi que le pain qui est descendu du ciel est. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Non, celui qui mange ce pain vivra éternellement. Loué soit le Seigneur. Tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ et qui réellement ont accepté la, en acceptant Jésus-Christ, ont accepté la vie de Dieu en eux, parce qu'en lui, il y a la vie. La vie qui était dans le sang. La vie était dans le sang. Dans le sang, il y a la réconciliation, il y a le pardon. Et ensuite, la vie éternelle accordée à ceux qui ont accepté dans la foi le pardon et la réconciliation. Une rédemption parfaite, entière, nous a été accordée par Dieu en Christ. Seulement encore ce verset qui traite le souper du Seigneur dans Matthieu 26, nous lisons volontiers ces versets qui appartiennent au souper. Et quand nous avons un baptême d'eau, nous lisons les versets qui appartiennent au baptême. Toujours les versets qui ont affaire au sujet qu'on traite et qu'on parle, et particulièrement aujourd'hui, alors qu'ensemble nous allons fêter le souper du Seigneur, tenir le souper du Seigneur, prendre part au souper du Seigneur. Dans Matthieu 26, versets 28 et 29. Car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Vous avez sûrement tous bien entendu. Tous nous savons que dans la coupe, il y avait du sang. Le Seigneur a bu. Dans la coupe, il y avait du vin. Pardon. Le Seigneur a bu le vin avec ses disciples. Il a rendu grâce. Il a distribué. Et nous allons aussi le faire ici. Prier, distribuer la coupe et briser le pain et le distribuer. Mais pensez à cela. À Jean 6, en lui était la vie. Celui qui l'a reçu. C'est-à-dire, l'a reçu tel que il est mort pour nous. Et dans son corps, dans son sang, sa vie pour nous a été accordée. C'est ainsi que nous avons le vrai droit de prendre part au souper, de fêter le souper du Seigneur et d'annoncer sa mort. Dans l'évangile de Marc, ces paroles-là sont encore un peu plus claires, écrites ici dans Marc, le chapitre 14, Marc chapitre 14, verset 22 au verset 25. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, prenez ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous. Et il leur dit, ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour beaucoup. Nous avons dans Ésaïe, le chapitre 53, lu qu'il donnera sa vie en sacrifice. Maintenant, faites attention au verset 25. Je vous le dis en vérité, Marc 14, verset 25. Je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. On doit toujours continuer à lire pour recevoir la réponse par les Saintes Écritures. Oui, pour la recevoir. Dans l'Apocalypse, au chapitre 5, et ça c'est le chapitre qui est en relation avec l'ouverture des sceaux et qui nous a été transmis. Apocalypse, chapitre 5, à partir de versets 9 et 10. Apocalypse, chapitre 5, versets 9 et 10. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume, et des sacrificateurs. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Cela seulement par le sang, par son sang. Il a racheté pour Dieu des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. C'est-à-dire que pour Dieu, ils ont été rachetés. Tous ceux là forment l'Église du Dieu vivant, tous ceux qui ont été déterminés avant la fondation du monde, selon le bon plaisir de sa volonté. Et bien, mes frères et sœurs, celui qui de tout son cœur peut croire cela reçoit par l'Esprit de Dieu le témoignage que il, que elle, appartient à ce peuple, à ce royaume. Que ce n'est pas seulement ici un cours auquel on prend part, mais cela est une parole adressée à toi et à moi. Personnellement, il t'a racheté, il m'a racheté. Et regardez aujourd'hui autour de vous, de tous les peuples, de toutes les langues, de toutes les nations, nous sommes ici rassemblés, ici en haut. Et là-bas en haut, il est traduit simultanément en 12 langues. Le monde entier nous écoute aujourd'hui en direct jusqu'en Chine et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est vraiment le message de Dieu, le message divin qui pour la dernière fois retentit, et cela réellement jusqu'aux extrémités de la terre. Ça, et que dans aucune religion, dans aucune église, est contenu le salut, mais seulement en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et c'est pour cette raison que l'importance est